Bonsoir et bienvenue dans En Deux Noirs, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, ce mois de janvier est déjà bien entamé, mais nous sommes encore dans les temps pour vous présenter nos vœux. 2019, année de la teuf, disait une amie. 2019, eh bien, que vous dire? En gros, de belles histoires pour chacun d'entre vous. De belles histoires dans la vie, et puis aussi dans les romans. Si l'année n'a pas mal débuté, elle s'est plutôt mal terminée pour le monde du roman policier, car un de ses phares, une de ses lumières, nous a laissé tout seul, bien malheureux. Le 27 décembre, Claude Mesplède s'est éteint dans sa 80e année. Et nous allons donc lui consacrer une partie de notre émission, car, comme on le dit souvent, il le vaut bien, tant par son importance dans le monde littéraire que par ses qualités humaines, sa volonté de partager ses passions, son engagement. Son travail le plus connu, le plus reconnu, c'est ce qu'on appelle le Dilippo. D'aucuns l'appellent aussi le Mesplède, comme on dit le Larousse ou le Robert. C'est le Dictionnaire des littératures policières en 2 volumes. Mais il est quand même intéressant de s'arrêter un peu sur son itinéraire, peu banal, et qui montre aussi combien la passion peut déplacer des montagnes. Or donc, Claude fut apprenti, très jeune, puis ouvrier, et très vite militant. Militant syndical, certes, mais aussi déjà, dès ses débuts dans le travail, dans la culture, puisqu'il va organiser des rencontres au sein de son entreprise, en particulier à Toulouse, comme celle de faire venir l'orchestre du Capitole dans un grand hangar à la rencontre des ouvriers, voilà, ou des écrivains. Le premier essai qu'il a commis, c'était en 1982, et ça s'appelle toujours Voyage au bout de la Noire. Quoique je crois que ceux qui le chercheraient, il faudrait vraiment aller dans des bibliothèque, parce que je pense qu'il est maintenant... on ne peut plus le trouver. Quoi.
Oui, je ne pense même pas que ceux qui l'ont s'en séparent, donc on ne doit pas pouvoir le trouver d'occasion.
Voilà. Donc en 82, il travaillait encore. Premier travail d'encyclopédiste, puisqu'il s'agit d'un dictionnaire consacré à tous les auteurs de la série noire. Évidemment, publié jusqu'en 1982, c'est évident. Passion de la littérature en général, et du polar en particulier, va être un virus pour lui dévorant, qui va remplir sa vie, et je crois celle de sa famille d'ailleurs. Il dit souvent que la lecture de Moisson Rouge, de Dashiell Hammett, lui a changé sa vie. Au vu du travail colossal qu'il a fait par la suite, et tout ce qu'il a fait pour le genre, c'est sûr que ça a vraiment bouleversé sa vie. Depuis 1982, puisqu'on parlait de ce premier essai, d'autres ont suivi, de multiples articles, un roman, Le Cantique des Cantines, dans la fameuse collection du Poulpe. Et puis, la participation à de multiples festivals de polar, qu'il a aidé dès leur début, qu'il a initié, en particulier d'ailleurs le plus célèbre d'entre tous maintenant, c'est-à-dire Quai du Polar. Vraiment, c'est un soutien indéfectible, et tout le temps, partout, pour tout le monde, les médiathèques, enfin pour tout le monde, et en particulier à la plus grosse association autour des littératures policières,
813.
Voilà, 813, dont il fut président pendant 3 ans. Mais avant de parler un petit peu du dictionnaire, on va écouter un petit morceau d'une chanson. Autre genre populaire que Claude Mesplède affectionnait particulièrement, et un titre lourd de sens. Je vous laisse le découvrir.
Bon, le chanteur, c'est Georges Brassens. La chanson, c'est bien sûr Les Copains d'abord, mais dans une version un petit peu plus swing.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en père.
Après ce petit intermède, parlons du Dico. Parce que ce fut un événement. Et d'abord, avant tout, une prouesse humaine. Un homme seul, ou presque, qui collecte des milliers de fiches. Il faut dire qu'il y a plus de 3000 entrées hein, dans ce dictionnaire en 2 volumes. Les bibliographies, les dates, les événements dont il faut s'assurer de l'authenticité, croiser les renseignements, aller à la pioche aux informations, être toujours à l'affût d'un nouvel auteur.
C'était en 2003, si je ne m'abuse.
Voilà, donc c'était un dictionnaire qui est paru en 2003. C'est des années et des années de travail. Certes, il y avait un éditeur derrière, Joseph K. Et puis, il a su s'entourer aussi de collaborateurs. Mais je ne crois pas qu'on s'est rendu compte à ce moment-là du travail que ce fut. Et je crois qu'on s'en rend toujours pas compte. Et puis, il y a eu succès, puisque la première édition est partie en quelques semaines. La deuxième réédition fut pour 2007.
La première réédition.
La première et seule, pardon.
La première réédition.
Excusez-moi. Donc, en 2007, donc, le dictionnaire est réédité. Il en reste quelques exemplaires. C'est pas qu'il y en a encore beaucoup, mais on peut encore retrouver. Et c'est quand même un ouvrage qui a fait que, pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois en tout, on parlait de polar en première page du Monde des Livres, et en couleur, s'il vous plaît. Ce dont on ne se rend pas bien compte non plus, c'est que tout ce travail, cet engagement, cette passion, ça a permis au roman policier de sortir un peu de l'ombre, du sous-genre dans lequel on l'avait cantonné, parce que oui, là maintenant on est en 2019, mais dans les années 80...
Polar, roman de gare.
Voilà, polar, roman de gare, c'était pas bien vu, c'était pas bien écrit, vite lu, bref, voilà. Et Claude Mesplède, ce fut l'un de ceux qui a donné au polar ses lettres de noblesse. C'était pas une mince affaire à l'époque, et il faut toujours encore être vigilant. Et si la France est une exception culturelle quant à la littérature policière, eh bien, c'est un petit peu à cause, ou grâce, pardon.
Grâce
à Claude Mesplède. Le nombre de festivals, les associations, et maintenant le nombre de blogs. Ce que Jean-Bernard Puy, dans un ouvrage, appelle la polardie. Eh bien, Claude fut à l'origine de nombre de ces initiatives. Voilà, quelques mots pour parler de Claude Mesplède. C'était donc l'un des spécialistes mondiaux des littératures policières, mais c'était avant tout et surtout un honnête homme, comme on l'entendait au siècle des Lumières, là où il y avait d'ailleurs les premiers encyclopédistes. Bienveillant avec les auteurs, comme avec les simples visiteurs de salon qui, au détour d'une conversation avec lui, repartaient enrichis et d'anecdotes et aussi du poids de 2 ou 3 ou 10 romans qu'il avait conseillés pour les lectures suivantes. Claude, c'était aussi un amoureux de toutes les cultures populaires. Il collectionnait les films, les musiques, et sa curiosité était vraiment insatiable. Depuis quelques années, il s'amusait à proposer des quiz aux festivals dans lesquels il participait, et en particulier des quiz musicaux. Donc, pourquoi ne pas faire comme lui pour notre musique, non pas hebdomadaire, mais bimensuelle.
Donc, on va faire. Ben voilà, donc, c'est la musique d'un film, donc. On va vous le laisser deviner, juste pour vous donner un indice. Il s'agit d'une. Le passage qu'on va entendre, c'est une poursuite entre une Ford Mustang Fastback et une Dodge Charger RT.
Et le deuxième indice, je vous donnerai le nom d'un des conducteurs.
Voilà, musique.
Un premier indice, si vous n'avez pas encore trouvé. Donc, la poursuite dont parlait Jacques, ça se passe dans les rues très accidentées, très vallonnées de San Francisco. Allez, encore quelques secondes. Allez, deuxième indice, on va dire qu'un homme très séduisant est au volant de la Mustang, si je ne m'abuse, c'est Steve McQueen. Voilà, encore quelques secondes. Voilà, le film, c'est Bullitt. Bullitt des années 70, je pense. Voilà, un très bon film policier et surtout une musique de, on l'a pas dit, c'est une musique de Lalo Schifrin.
Voilà.
Donc, sans transition, Jacques.
Ou presque, en fait, puisque on parlait tout à l'heure de à propos de Claude Mesplède, que la lecture de Moisson Rouge lui avait changé la vie. Et bien là, on va, Moisson Rouge, donc, de Dashiell Hammett, et là, on va parler d'une nouvelle de Dashiell Hammett qui s'appelle Papier de fumouche, ou Fly Paper en anglais, et qui a été adaptée en roman graphique par Hans Hillmann, et ça a été publié aux éditions de la Table Ronde. Donc l'auteur de cette adaptation, Hans Hillmann, est un dessinateur et aussi un affichiste allemand. Ce roman fait 250 pages, et sur les 250 pages, 230 aquarelles en noir et blanc et gris. Une aquarelle par page, avec quelquefois des doubles pages. Très peu de texte, juste quelques lignes en bas de certaines pages. Surtout les dialogues. Sinon, c'est le dessin, la peinture, devrais-je dire, qui raconte l'histoire. Il peut y avoir jusqu'à 10 ou 12 pages muettes consécutives. On n'est pas du tout dans la BD belge Ligne Claire, vous l'aurez compris. Chaque page fourmille de petits détails qui reprennent, par exemple, les descriptions de Dashiell Hammett. Ce n'est pas, loin de là, un storyboard pour une future adaptation cinéma, mais il y a néanmoins un esprit très visuel, un cadre à destination du lecteur, avec des champs contre champs, ou des, comment dire, des simili-zooms qui se répartissent.
Des simili-zooms ?
Voilà. Ben, c'est-à-dire
un détail. Juste un peu expliquer.
Et ben, en fait, Hans Hillmann zoome en fait sur un détail en trois ou quatre dessins.
Case.
Non, dessin. C'est il n'y a pas de case en fait. Il n'y a qu'une page à chaque fois ou deux ou une page ou un dessin sur deux pages. Hans Hillmann excelle dans la création d'une atmosphère, ce qui était évidemment le cas aussi de Dashiell Hammett. Une simple ombre en dit plus que 10 lignes de texte, et les vues de New York au début ou celles de San Francisco à la fin sont d'une beauté surprenante et d'une précision méticuleuse. Que ce soit la cheminée que l'on aperçoit au coin d'une rue ou l'échelle de secours qui brise la vue depuis une fenêtre. Si vous passez chez votre libraire, regardez la page 188. Il y a toutes d'ailleurs, mais la page 188, elle est vraiment typique.
Je répète, la page 188.
Voilà, l'éclairage du plafond et quatre personnages, trois hommes, à l'air de malfrats. Mais ce sont peut-être des flics. Une femme, le dos cambré, et donc les fesses légèrement rebondies. Tous les quatre semblent discuter ardemment. Au milieu d'eux, un fauteuil vide. Bon, je vais quand même vous dire juste deux mots du sujet. C'est une histoire de gangster, une fugue, ou un enlèvement, on verra à la fin, et de l'argent, beaucoup d'argent en jeu. Quelques figurants, quelques personnages, des trognes et des flingues, dont une mitraillette Thompson qui joue un très grand rôle. La Thompson, vous savez, c'est celle avec un gros camembert, quelque chose en forme de camembert qui contient les balles juste derrière la gâchette. L'éditeur a rajouté à la fin le texte intégral de la nouvelle dans une traduction remaniée en regard du texte, il y a des nombres, et ces nombres en fait correspondent aux pages du roman qu'on vient de lire en images, et aux pages de la version dessinée, en fait.
On peut peut-être d'ailleurs commencer par lire la nouvelle avant de regarder les...
Ça
peut...
Voilà. Ben, c'est au choix. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire le contraire, mais bon, c'est mon choix. En fait, ça permet juste le plaisir d'une deuxième lecture. On lit le texte intégral et on se rapporte, en fait, à chaque phrase, chaque mot de Dashiell Hammett, on se rapporte au dessin qu'en a fait Hans Hillmann. Parce que, je vous rassure, la première lecture, en regardant que... Les dessins, les images, et avec juste ces quelques lignes de texte, on comprend tout. Cette adaptation graphique est sortie il y a quelques semaines, donc un peu avant Noël, aux éditions de la Table Ronde, mais l'édition originale allemande date de 1983. Et oui, plus de 35 ans. Hans Hillmann, lui, est décédé entre-temps, en 2014, donc il ne viendra pas défendre son ouvrage dans les salons polar ou BD. N'espérez pas le voir à Angoulême dans les semaines qui suivent.
On va peut-être donc redonner le titre de cette nouvelle et donc de cet ouvrage.
Ça s'appelle Papier tue mouche, et donc l'auteur de la nouvelle, c'est Dashiell Hammett, mais l'auteur de l'adaptation, c'est Hans Hillmann, et c'est publié aux éditions de la Table Ronde. Un très très beau volume.
À tout de suite.